franceinter.com.
Les destins devaient sans doute au monde la naissance d'une ville si grande et l'établissement de son empire, le plus puissant après celui des dieux. Tite Live. Mille ans d'histoire. Pour qu'un jour quelques cabanes plantées sur une colline deviennent une ville et la ville la capitale d'un des plus grands empires de l'histoire, il fallait lui donner des origines légendaires. C'est ainsi que, 7 siècles après la naissance de Rome, Virgile et Tite Live ont imaginé une histoire que tout le monde connaît, celle de 2 enfants jumeaux, Romulus et Rémus, qui, après avoir été condamnés à mourir noyés dans le Tibre, avaient été sauvés par une louve qui les avait allaités dans une grotte. C'est là que, 20 ans plus tard, sur une des 7 collines de Rome, le Palatin, ils avaient décidé de fonder une ville et de lui donner le nom de celui des 2 jumeaux qui seraient désignés par les dieux.
Au-delà de ce marais, derrière la montagne de feu, nous découvrirons une vallée, entourée de 7 collines, parcourue par un fleuve. Là, nous fonderons une cité et installerons nos foyers pour toujours.
Les dieux décideront lequel des deux sera notre chef.
Demain, à l'aube, lorsque le feu de résine sera mort, nous compterons les vautours dans le ciel.
Vous vous éloignerez alors l'un de l'autre, à la distance de 5 tirs d'arc. Celui de vous deux qui comptera le plus de vautours dans le ciel sera le roi, de par la volonté des dieux.
4 noirs et 8 blanches. Les dieux en ont décidé.
C'est Romulus qui est notre roi.
Alexandre Grandazzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste du monde romain et auteur de plusieurs livres sur les origines de Rome, auxquels d'ailleurs le numéro de février-mars des cahiers de Science et Vie sont également consacrés. Alors, des origines qui ont été longtemps considérées comme une légende, ne serait-ce que parce que Rome existait avant Romulus, avant de s'appeler Rome. Elle était déjà peuplée depuis la préhistoire, Alexandre Grandazzi.
Oui, et c'est une des grandes découvertes des recherches récentes. Lorsque j'étais étudiant, on nous disait que le Capitole avait été occupé à partir du 11e, 12e siècle avant notre ère. Et les fouilles récentes, l'année 2000 et un peu après, entreprises sur ce Capitole, ont montré qu'il y a une occupation. Alors, elle n'est peut-être pas permanente, mais elle est saisonnière et de longue durée chaque année à partir du 17e siècle avant notre ère.
C'est-à-dire, en fait, 10 siècles avant Romulus et Rémus. Voilà. Hein, avant la légende de Romulus et Rémus. Il faut peut-être rappeler aussi quel était le site. Si, quand une ville s'installe quelque part, ça a toujours un sens. Là, il faut rappeler que c'est autour de 7 collines, dont je rappelle le nom, le Capitole, le Palatin, le Quirinal, l'Aventin, le Viminal, l'Esquilin et le Caelius, qui surplombent des marécages. C'est a priori pas très hospitalier comme site. Et pourtant, vous dites que bien avant Romulus et Rémus, eh bien, il y avait déjà des gens qui s'y sont installés. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
Oui, alors il y a plusieurs raisons, parce que on ne croit plus, les spécialistes ne croient plus à la cause unique pour le surgissement et le développement du premier site de Rome, mais une raison essentielle tient certainement à la présence du Tibre, qui est, on ne s'en rend pas très bien compte aujourd'hui lorsqu'on visite Rome, qui est le second cours d'eau de l'ensemble de la péninsule italienne et qui est un cours d'eau navigable au regard des critères antiques. C'est-à-dire que d'assez grosses embarcations peuvent remonter le Tibre et on a la preuve, ne serait-ce que par l'archéologie, il y a des tessons grecs du 8e siècle avant Jésus-Christ au pied du Capitole précisément et qui montrent qu'il y avait des bateaux qui remontaient.
C'était donc un port, hein, en quelque sorte, mais dans la terre ferme, enfin sur la terre ferme, un port qui donnait d'ailleurs sur une embouchure très importante parce qu'il s'y trouvait des marais salants. À l'époque, les marais salants, c'était une richesse très importante à l'époque romaine.
Oui, alors c'est une découverte là aussi assez récente, bien qu'il y ait des historiens dès le début du XXe siècle qui avaient attiré l'attention sur ce phénomène. Mais on s'est rendu compte que les marais salants qui sont sur la rive droite du Tibre, mais aussi sur la rive gauche, sur la rive droite contrôlée par la puissante ville de Veii, qui existe elle dès le IXe siècle, ça on en est sûr, ces marais salants sont une source de richesse incroyable pour ceux qui les contrôlent. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a réfléchi sur le nom d'une très vieille voie romaine, qui est la voie du sel, la Via Salaria. Et on s'aperçoit qu'elle descend des montagnes, qu'elle passe par Rome et qu'elle va vers ces marais salants, qui sont la seule source de sel naturel, puisqu'il n'y a pas de mine de sel gemme qu'on trouve sous terre en Italie, hormis un site qui se trouve de l'autre côté de la péninsule et beaucoup plus au sud. Donc c'est une source de richesse et de puissance pour la population qui le contrôlera, sans commune mesure avec tout ce qu'on peut trouver par ailleurs comme ressource naturelle.
Alors la population qui le contrôlera, ce site, ce seront les Romains dont Virgile dit qu'ils descendent des Troyens, que ce serait Aîné, un rescapé de la guerre de Troie, qui serait venu donc en Italie, et ce sont ses descendants qui auraient fondé Rome.
Oui, Alexandre Vandazzi. Cela, c'est un mythe qui va devenir le mythe national romain. C'est celui que raconte l'Énéide, c'est celui que raconte Tite Live, avec une succession Troie, Aîné partant de Troie, arrivant après bien des voyages, des errances en Latium. Troie, Lavinium, son fils Ascagne fonde Albe, et 400 ou 300 ans plus tard, c'est Rome. C'est une succession légendaire, mythique, qui est artificielle. On ne peut pas penser qu'un personnage portant le nom d'Aîné ait réellement existé. Tout cela est parti de quelques vers d'Homère, et tout le monde connaissait Homère par cœur dans le monde antique. Mais cela peut recouvrir des traditions concernant précisément ces Grecs à époque très ancienne ayant fréquenté le site. On vient de retrouver il y a quelques années sur le Palatin un tesson qui semble être un tesson, je ne vais pas dire qu'il est grec, mais il est en liaison, disons, avec le monde grec, et il date du XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Alors bien plus tard, donc c'est au 8e siècle que les descendants d'Aîné, hein, selon la légende, eh bien, Romulus aurait construit la première enceinte de Rome le long d'un sillon tracé par lui au pied du Palatin.
Maintenant, il faut délimiter l'enceinte de la ville. C'est à toi de le faire, Romulus. C'est la première tâche d'un roi.
Tu as choisi cet endroit avec beaucoup de sagesse. Sur les collines, nous aurions été trop loin du fleuve et l'eau est nécessaire à la vie de l'homme.
Au nom des dieux immortels, moi, Romulus, je me proclame roi de cette cité. Sur le sol, j'ai délimité son enceinte. Quiconque la traversera sera le bienvenu. Mais celui qui aura des armes devra mourir. Telle est notre loi.
Alors cette fameuse enceinte, c'est le pomerium, dites-vous Alexandre Grandazis, qu'on appelle le pomerium, dont on a retrouvé d'ailleurs des traces, mais on y reviendra à la fin de cette émission. Et ce sont donc ces Romulus, qui d'ailleurs a donné son nom à la ville, qui le fonde après avoir tué son frère. Il faut peut-être rappeler toute cette légende. Que faisaient Romulus et Rémus à cet endroit où ils avaient été 20 ans plus tôt sauvés par une louve, hein? Ça, c'est la légende.
Eh bien, je me place du point de vue de la légende, après avoir rétabli leur grand-père sur le trône d'Albe et tué le méchant Amulius, qui avait détrôné Numitor, Romulus et Rémus partent fonder une nouvelle ville ailleurs qu'à Albe, où ils ne peuvent pas régner, puisqu'ils ont rétabli Numitor sur le trône.
Il faut rappeler que ce Numitor, en fait, c'était leur grand-père, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué cette histoire, hein, oui. Et qu'il avait été détrôné par son frère. Alors oui. Du coup, ce frère, ce méchant, décide que les descendants de Numitor, c'est-à-dire en fait leurs deux petits-fils, qui oui. seraient nés de la fille de Numitor, qui elle-même aurait couché avec le dieu Mars, donc on est vraiment dans la légende, eh bien devaient mourir, on devait les noyer dans le Tibre, ils sont sauvés des eaux, un peu comme Moïse par cette louve qui les aurait allaités, et puis ils auraient grandi auprès d'un berger, ils seraient revenus dans la ville d'Albe, donc, pour détrôner effectivement l'usurpateur et puis revenir à Rome, à l'endroit où ils avaient été sauvés, c'est ça.
Il considérait, enfin, si on se place dans l'optique de la légende, il considérait que l'endroit où ils avaient été sauvés recelait déjà des vertus propres et des possibilités d'implantation qui leur permettaient d'établir une nouvelle ville. C'est la traduction dans la légende d'une réalité, à savoir que le Palatin est une colline très étendue, très bien isolable, isolée, et qui domine tout le pays environnant et qui offre des facilités d'installation réelles.
Donc c'est ainsi qu'a été créée Rome, qui commence d'ailleurs par un meurtre. C'est celui de Rémus par Romulus. Hein, pour devenir roi, il a tué son frère.
Oui. Alors là, on est dans le domaine de la légende et même du mythe. Pourquoi y a-t-il deux jumeaux ? Parce que non seulement chez les Indo-Européens, mais ailleurs, la gémellité, le fait d'être deux jumeaux, est un signe de puissance et de prospérité. Donc Rome ne pouvait avoir que des jumeaux pour fondateur.
Alors peut-être, mais enfin, il n'y en a qu'un seul qui pouvait régner, c'est donc Romulus, premier des sept rois donc, qui ont gouverné Rome avant qu'elle devienne une république. Romulus qui d'ailleurs lui a donné ses premières lois.
Et maintenant, nouveaux citoyens de Rome, venez faire connaissance avec sa justice.
À moi, il m'a volé une poule.
Non, c'est faux. Ta poule est venue dans mon champ, elle vient manger mon grain pendant une semaine. Elle est à moi, non ?
Voleur, silence ! La poule retournera à son propriétaire. Et c'est à celui qui la nourrit qu'appartiendront les œufs qu'elle pondra cette semaine. J'ai dit. Et maintenant, au suivant.
Nous l'avons surpris en train de voler un cheval.
À l'intérieur de Rome ?
Non, territoire étrusque.
Eh bien, alors de quoi vous mêlez-vous ? C'est toujours un cheval de moins pour les Étrusques et un de plus pour Rome. Tu es libre, va. Rentre chez toi. Et que les dieux te protègent.
Roi, un navire phénicien accosté sur la rive du Tibre. Il refuse de payer le droit de péage. Plusieurs de nos hommes ont été tués. Vulcus demande des renforts.
Combien y a-t-il de phéniciens ?
Une cinquantaine.
Vingt-en avec moi. Comment sont les auspices ?
Pas fameux.
50 hommes avec moi.
Et c'était un autre extrait de Peplum, donc Romulus donnant à Rome, après lui avoir donné une enceinte, après lui avoir donné son nom, puisque Rome, évidemment, vient de Romulus, eh bien, lui donne ses lois. Dans ce qui n'est, il faut bien le rappeler, qu'une toute petite ville ou un tout petit village à ce moment-là, Alexandre Grandazzi, hein, il ne faut pas imaginer la Rome qui sera plus tard celle d'Auguste et celle de l'Empire.
Certes. Au 8e siècle avant notre ère, cependant, on est déjà très loin de l'époque des commencements d'occupation permanente ou quasi permanente du site que nous évoquions à l'instant. On est déjà 10 siècles après le 17e siècle avant notre ère, par définition. Et je dirais que cette société proto-historique a beaucoup progressé. Elle a déjà des puissants et des faibles. Elle a déjà des relations, une exploitation plutôt de la terre assez perfectionnée. Et donc la fondation d'un établissement particulier, qui est autre chose que ce qu'il y avait eu auparavant sur le Palatin, correspond à cette évolution de la société. De même qu'il y a dans la société des individus qui maintenant sont différenciés les uns des autres, il va y avoir dans le territoire des sites qui seront différenciés les uns par rapport aux autres. Et c'est cela que veut dire la fondation romuléenne, même si elle n'est pas, et il faut le souligner, elle n'est pas une occupation d'un site qui aurait été désert jusque-là. Ça, c'est la légende qui a créé précisément cette opposition pour mieux marquer l'originalité de la création de la fondation romulienne.
C'est-à-dire en fait Rome qui serait une espèce de fédération au fond de villages se trouvant sur ces
et
sept collines.
Pour mieux montrer l'importance de ce qui se crée à ce moment-là, au milieu du 8e siècle avant notre ère, on disait qu'il n'y avait rien eu avant.
Et auquel, à l'époque de Romulus d'ailleurs, Romulus donne des descendants et c'est le fameux épisode de l'enlèvement des Sabines. Hein. Comme il y avait trop d'hommes à Rome, eh bien on était chercher des femmes ailleurs.
Oui, alors cela, évidemment, c'est un épisode auquel il n'est pas question de donner une historicité, une valeur historique concrète, précise, ponctuelle, dans un lieu et dans un temps précis. Mais là encore, la légende a gardé sous une forme pittoresque une vérité concrète de civilisation, à savoir que si vous regardez une carte, vous vous apercevez que l'arrière-pays au nord et à l'est où les Romains pouvaient prendre femme et nouer des relations, c'est précisément la Sabine. Donc la légende, évidemment, a un côté conte d'enfant qui peut faire sourire, mais elle correspond à une réalité sans doute ethnographique, à savoir que ces Latins établis sur les collines de Rome ne pouvaient avoir des relations avec d'autres peuples que du côté du nord et du nord-est, c'est-à-dire de la Sabine.
Alors justement, bon, ce Romulus a dû régner 37 ans quand même, ce qui est assez long. Il a eu le temps, dites-vous, de construire, enfin de créer des institutions politiques, un Sénat. En fait, c'est une monarchie. On l'oublie toujours, Rome a commencé par être pendant 250 ans une monarchie avec Romulus, dont Romulus était le premier roi.
Oui, et les Romains, eux, ne l'ont jamais oublié. Et ce qu'ils critiquaient, c'est la transformation de la monarchie en tyrannie, avec le dernier roi dont on parlera dans un instant, Tarquin le Superbe. Mais la monarchie elle-même n'était pas pour eux une institution totalement négative, comme on peut le croire. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer le palais de Versailles, un trône et un globe d'or dans la main. Les premiers rois de Rome sont peut-être plus proches des chefs de tribu des bons westerns de notre enfance que de Louis XIV. Mais ils sont entourés, et vous parliez du Sénat, je crois que l'étymologie du mot Sénat est intéressante. Sénatus, ça vient de Sénex, vieillard. Et ça veut dire, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 60 ans, selon les critères romains, ça veut dire que ce roi, il est entouré des chefs de clan, des sages, on dirait dans une tribu indienne, n'est-ce pas? Et c'est eux qui le conseillent et qui l'aident à prendre ses décisions.
Et parmi ces décisions, il y a celle que prend Romulus à la fin de son règne de 37 ans, en laissant le pouvoir à son successeur, le Sabin Numa Pompeius.
Les Romains n'ont plus besoin de moi. Je leur ai mis une épée dans la main et une patrie dans le cœur. Je ne suis plus le roi qui convient à mon peuple. Un autre plus intelligent, plus patient, plus avisé, de reprendre le flambeau et de leur mettre en tête le respect des lois.
Qui ? Personne ne remplacera jamais Romulus.
Si, Numa, toi, à partir de demain, tu régneras sur Rome. Il y a longtemps que je t'avais choisi.
Je n'accepte pas. Reste, je t'en supplie, reste.
Debout, Numa. C'est la dernière fois que je te donne un ordre. Un roi ne s'agenouille pas.
Et c'était la fin en 716 avant notre ère, avant Jésus-Christ, du règne de Romulus et le début de celui du premier de ses six successeurs, chacun ayant contribué à défendre la ville, à l'agrandir ou à lui donner des institutions qui allaient rester celles de Rome après la République. Numa, donc, on vient de l'entendre, c'est son premier successeur. C'est un peu l'organisateur de la religion qu'auront les Romains ensuite pendant 10 siècles.
Oui, alors bien entendu, on sait et on peut deviner qu'il y avait une religion et des cultes religieux avant Numa. Mais quand on dit l'organisateur, cela veut dire sans doute que les Romains avaient focalisé sur Numa le souvenir, qui semble être réel, d'une phase où on était passé d'une religion peut-être un peu animiste, d'une religion confiée aux différentes familles, à une religion collective qui avait des endroits devenus des sanctuaires consacrés aux dieux et où on ne pouvait pas faire d'autres activités. Donc cette séparation de l'espace entre endroit laïque et endroit religieux, cette séparation des jours de l'année entre jours normaux et jours où on fête les dieux, qui a été attaché par les Romains ensuite au souvenir du roi Numa Pompilius.
Numa, dont le successeur Tullius Hostilius, d'ailleurs je ne sais pas si ça a un rapport avec son nom, était un roi plutôt belliqueux, c'est lui qui aurait détruit la ville d'Albe, hein, c'est le fameux épisode des Horaces et des Curias, la ville d'Albe dont vous dites qu'elle est elle-même une légende et qu'elle n'a jamais existé, Alexandre Grandazzi.
Oui, alors c'est une constatation que j'étais amené à faire après avoir abouti à l'idée qu'on avait tellement localisé la ville d'Albe ici et là autour du massif Albin que la solution de toutes ces propositions qui s'annulaient les unes les autres, c'était peut-être de penser que Albe la Longue était non pas une cité, comme le dit la légende, mais une fédération, une ligue centrée sur les monts Albins, dont je rappelle qu'ils sont une zone extrêmement prospère à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome.
Alors une fédération, Rome s'agrandit avec Tullius Hostilius, puis il y a Ancus Marcus qui est le fondateur du port d'Ostie, du premier pont de Rome également, et puis enfin trois rois étrusques. C'est avec eux d'ailleurs essentiellement que Rome a pris de plus en plus d'importance, devient une véritable ville. Par par exemple, ils construisent le forum qui est le centre de la vie romaine et de la vie politique romaine depuis toujours. Enfin, maintenant, il n'y a plus que des ruines. Mais c'était un marécage et c'est grâce à eux, grâce à la construction des premiers égouts qui ont permis de drainer ce marécage, que le forum est né.
Oui, alors le forum, c'est évidemment... le forum, c'est l'espace qui est au-dehors. Forum, ça vient d'un adverbe en latin qui veut dire au-dehors. C'est au-dehors du palatin, au-dehors du pomerium. Mais la grande nouveauté des recherches récentes, c'est que, certes, les Tarquins ont
c'est
beaucoup fait...
les rois étrusques. Hein.
Les rois étrusques, oui. Ont beaucoup fait pour, comment dirais-je, aménager ce forum. Mais il semble que le travail de drainage du marécage qui existait, etc., ait commencé dès la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère. Hein. Il semble se dessiner cette conclusion qui est évidemment très importante.
Autre apport très important, parce que c'est celui qui va conditionner l'expansion de Rome, les conquêtes de Rome, c'est l'organisation militaire en légions. Les légions romaines datent de cette époque, datent de la royauté. Elles sont divisées en centuries. J'ai appris une chose amusante d'ailleurs, c'est que c'est à cette époque aussi que ces fameuses centuries sont fournies par des classes sociales dont la dernière s'appelait celle des prolétaires.
Oui, alors les prolétaires, aujourd'hui le mot veut dire, désigne des personnes qui n'ont que, comme disait Marx, que leur force de travail à proposer. Mais les prolétaires en latin, c'est ceux qui ont une prolesse, qui ont une descendance. C'est ceux dont la seule richesse est les enfants qu'ils ont. Et c'est la plus grande richesse qui soit, n'est-ce pas ?
Alors cette armée, donc, elle est organisée de telle manière que petit à petit, Rome, du temps de la royauté et plus tard du temps d'ailleurs, puisque l'organisation restera la même pendant toute la durée de l'Empire romain, va pouvoir s'étendre progressivement, d'abord avec la conquête de l'Italie et plus tard de l'Empire. Mais là, ce sera sous la République. En 509, événement considérable, le dernier des rois, des sept premiers rois de Rome, est renversé, Tarquin le Superbe, et c'est donc la République qui apparaît, la République à laquelle les Romains sont toujours restés attachés.
Oui, avec cette réserve que l'interprétation que nous faisons des mots monarchie et République n'est pas celle que faisaient les Romains. D'abord, il faut dire que on a découvert, à partir des années 1960, que le dernier roi étrusque n'est pas parti de plein gré, il n'est pas parti à cause d'une révolution intérieure, il est parti à cause d'une invasion étrangère. Ça change quand même beaucoup de choses. Et contrairement à ce que croyaient les révolutionnaires de 1789 ou des 1793, il n'y a pas une royauté absolue à laquelle aurait succédé une république démocratique. À Rome, c'est tout le contraire. La royauté de la dernière période, notamment celle du roi Servius Tullius, c'est une royauté soucieuse du peuple, du petit peuple. Une royauté, on disait même que Servius Tullius avait rédigé la constitution de la République, ce qui est évidemment faux. Il a rédigé des commentaires, disait-on. C'était faux. Mais l'esprit de cette royauté, tel que la recherche récente le reconstitue, c'est celle d'une tyrannie à la grecque soucieuse du petit peuple. Par contre, la République qui succède à la faveur d'une invasion étrangère en 509 ou 506 avant notre ère, c'est une oligarchie. C'est ces 200 familles qui, vers 367 avant Jésus-Christ, vont se partager le pouvoir à Rome. Et ça, on peut le prouver puisqu'on a la liste des consuls de 506 jusqu'à Auguste. On a année par année la liste des consuls. Et de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit que c'est, 200 familles. C'est même les 100 familles, les 100 mêmes familles qui gouvernent Rome. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est la royauté qui à Rome a été démocratique et la République qui a été, oligarchique.
Alors cette république commence donc 250 ans après la création légendaire de Rome par Romulus. Elle commence en 509 ou en 506. Et puis c'est à l'époque de la république qu'on commence enfin, on commence à rédiger l'histoire de Rome, la naissance de Rome. C'est-à-dire bien longtemps après que Romulus ait tracé les frontières, les limites de Rome, voilà que les Grecs commencent à en parler, et puis surtout Virgile et Tite Live. Autrement dit, c'est très longtemps après que l'histoire de la naissance légendaire de Rome, c'est très longtemps après qu'elle ait eu lieu qu'on l'a découverte, Alexandre Grandazzi.
Oui, c'est vrai que Virgile, d'une part, et Tite Live, d'autre part, et d'autres encore,
c'est au 1er siècle avant notre ère,
c'est 700 ans après les événements, donc tout cela ne peut qu'inquiéter. Et pendant 150 ans, de Louis de Beaufort en 1738 jusqu'à pratiquement nos jours, cela a conduit beaucoup d'historiens modernes à dire que, par exemple, la légende de Romulus ne pouvait avoir aucune réalité historique. Mais la surprise, c'est que cette conclusion est fausse.
Eh bien, la surprise, en effet, on la découvre à partir du XXe siècle jusqu'à ses dernières années, avec la découverte, il y a à peine 2 ans et demi, eh bien, de quelque chose qui faisait ou qui rendait, au fond, la légende réelle. C'était en 2007. On écoute ce reportage de France 2.
C'est une découverte exceptionnelle. Une cavité de 7 mètres de haut, ornée de coquillages, de mosaïques et de peintures, en très bon état de conservation. Les archéologues pensent avoir tout bonnement retrouvé le Lupercal. La découverte est d'une telle importance que le ministre italien de la Culture a tenu à l'annoncer en personne.
Cela pourrait raisonnablement être le site qui a abrité le mythe fondateur de Rome, l'un des plus célèbres au monde. La grotte légendaire où la louve a allaité Romulus et Rémus, leur sauvant ainsi la vie.
La grotte se situe à 16 mètres sous terre, en plein cœur de la capitale, sous les ruines du Mont Palatin. C'est ici que, d'après la légende, Romulus et Rémus ont fondé Rome en 753 avant Jésus-Christ.
Et c'était donc il y a 2 ans et demi à peine la découverte sous le Palatin de ce qui est peut-être la grotte, la fameuse grotte de Romulus et Rémus, qui elle, dont l'histoire commençait il y a 2700 ans. C'est assez étonnant parce que ça semble confirmer, au fond, ce qui était considéré jusque-là comme une simple légende. C'est pas la première fois. Vous évoquez beaucoup, Alexandre Grandazzi, des fouilles archéologiques qui ont été faites dans les années 80 par Andrea Carandini, qui lui avait découvert la fameuse enceinte dessinée par Romulus.
Oui, alors c'est effectivement une découverte très importante, peut-être même plus importante que celle de la grotte du Lupercal, si Lupercal il y a bien, parce que découvrir une vingtaine de mètres en plusieurs endroits d'un mur dont on peut prouver par l'archéologie qu'il date bien de la moitié
de 750,
du 8e siècle avant notre ère.
C'est-à-dire Romulus.
Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui a voulu qu'un mur soit construit et que ce quelqu'un avait un certain, on va dire, charisme. Donc, de là à penser que ce quelqu'un s'appelait Romulus, il n'y a plus qu'un pas qui n'est pas très grand.
Et cette grotte, alors ? Cette grotte qu'on vient à peine de découvrir, elle est même pas... Elle est en photo,
elle
on la voit
pas
dans
fouillée.
Le numéro spécial
des
cahiers de Science et Vie, mais c'est absolument inouï parce que c'est là, donc, que... eh bien, la louve aurait allaité Romulus et Rémus. Bon, c'est peut-être une légende, mais enfin, ce serait en tout cas le fameux Lupercal.
Oui, alors je crois que cette découverte, qui de toute façon est tout à fait spectaculaire et passionnante, pose deux problèmes.
Découverte par une sonde, hein, il faut le rappeler, parce qu'on n'a pas osé l'ouvrir encore.
Une sonde du type de celle qu'on emploie pour explorer le corps humain. Mais donc, elle pose deux problèmes, cette découverte. Le premier, c'est, s'agit-il du Lupercal ? Je répondrai très vite... ce n'est pas certain, mais c'est possible. Et le second problème, c'est qu'est-ce que ça prouve, si c'est bien le Lupercal ? Et bien entendu, cela ne prouve pas qu'il y a eu une louve qui un jour a réellement accueilli deux jumeaux. Mais autant l'histoire traditionnelle est incapable d'aborder un mythe comme celui de la louve sans dire ben, c'est faux, il n'y a rien à voir, autant les chercheurs modernes sont capables, grâce à l'anthropologie, de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette louve ? La louve, c'est la femelle du loup, c'est-à-dire l'animal le plus redoutable qui soit à une civilisation pastorale. C'est le totem, l'animal prédateur qui devient l'animal protecteur. Donc la légende a une signification, et cette signification, au sens large, elle est historique.
Et on n'a pas fini, effectivement, de découvrir des choses sur ce passé très lointain de la ville de Rome. Pour en savoir plus, je recommande la lecture des cahiers de Science et Vie, actuellement en kiosque, intitulé « Rome, comment tout a commencé ?» avec lequel nous sommes partenaires donc et auquel vous avez participé, Alexandre Grandazzi. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, Les origines de Rome, aux presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, La fondation de Rome, aux éditions Les Belles Lettres, et puis Alba Longa, Albe la Longue, Histoire d'une légende, un livre en 2 volumes, édité par l'École française de Rome de Bocard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Romulus et Rémus de Sergio Leone en DVD chez René Château Vidéo et L'enlèvement des Sabines de Richard Potier. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ronan Mahé et Céline Bonhomme. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, à l'occasion de la journée spéciale Yves Saint-Laurent sur France Inter, une histoire de la mode.